Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette deuxième partie de journée. Avant de présenter notre communication, nous allons laisser donc la parole à nos acteurs et actrices qui vont nous présenter des extraits que nous avons sélectionnés d'entretiens avec des personnes qui pratiquent des évaluations d'âge pour la prise en charge ou non de mineurs, de jeunes qui se présentent comme mineurs étrangers isolés. Merci.
Entretien avec une professionnelle de l'aide sociale à l'enfance dans un département français. Évaluer la minorité des jeunes isolés et étrangers.
J'avoue que c'est pas facile quand on a un jeune qui se présente, même s'il est majeur, il est dans une situation de détresse. Donc ça, on en a conscience. Et on fait les évaluations avec un maximum d'humanité. Après, on est à l'aise avec l'idée de se dire... Nous sommes le service d'aide sociale à l'enfance. On est là pour prendre en charge les mineurs. Donc, malheureusement, tous ceux qui ne rentrent pas dans ce dispositif relèvent d'autres dispositifs. On a conscience que c'est effectivement compliqué. Le parcours est plus difficile quand on est majeur que mineur. Mais il faut faire face à cette réalité. Parce que sinon, psychologiquement, c'est difficile. Après... Il y a des entretiens qui sont psychologiquement, comme je dis, très difficiles à gérer parce que, voilà, il y a des jeunes qui sont certes majeurs, mais touchants. Donc, c'est un travail qui est effectivement très, très compliqué. Après, je pense que c'est une question d'habitude aussi. Les premiers entretiens sont un petit peu compliqués, on ne sait pas trop. Et puis après, plus on en fait et plus... Pas plus ça devient facile, mais plus on arrive à expliquer aux jeunes que c'est dans leur intérêt de dire la vérité dès le départ. Parce que si on l'apprend par la suite, les conséquences ne sont pas les mêmes. Parce qu'on fait des contrôles. Donc, s'il ressort qu'ils sont connus comme majeurs dans un autre pays, qu'ils ont demandé un visa, par exemple, pour venir en France, les conséquences ne sont pas les mêmes. Le procureur poursuit les jeunes qui ont été admis au service social à l'enfance et qui sont reconnus comme majeurs par la suite. Et ces derniers temps, ça s'est un petit peu calmé. Et ils ne font plus de poursuites systématiques, mais... Il fut un temps où c'était des poursuites systématiques pour essayer d'enrayer un peu ce processus. Parce que c'est un dispositif, le dispositif d'évaluation, qui a des failles aussi. Les réseaux, parce qu'on parle de réseaux de passeurs qui ont connaissance de ces failles. Ils savent très bien vers quel département il faut orienter les jeunes pour qu'ils aient plus de chances d'être pris en charge. Donc voilà, je pense qu'il y a des départements effectivement où les parquets sont un petit peu plus sévères. Donc ça arrive régulièrement qu'au cours de l'entretien, les personnes qui se présentent comme mineures déclarent finalement être majeures et déclarent leur âge. Et là, on peut les orienter vers des structures adaptées en leur expliquant le parcours et les structures vers lesquelles ils peuvent se tourner. Donc ça, c'est tout le volet évaluation. Entretien avec une professionnelle d'une structure de prise en charge des MNA. L'hébergement d'urgence des jeunes à l'hôtel, les ateliers organisés pour les nouveaux, prise en charge.
Alors, ça fait à peu près un an dans notre association qu'on travaille essentiellement avec deux hôtels. On a beaucoup de chance parce qu'ils ont beaucoup de disponibilité. Enfin, il y en a un qui est surtout très grand. Donc on arrive à gérer nos flux hôteliers sur les deux hôtels. Le jeune, après, quand il est mis à l'abri, en cours d'évaluation, il a rendez-vous forcément le lendemain pour son entretien d'évaluation. Après, on a un intervenant social qui fait des visites d'hôtel aussi. Donc, elle visite à minima chaque hôtel une fois par semaine. Normalement, plus. Après, c'est en fonction, malheureusement, de la gestion des flux et des arrivées. Et après, le jeune, on le reconvie pour lui donner la réponse. Pour ceux qui sont placés par le juge, ils viennent dans nos locaux les lundis, les mercredis et les vendredis, le matin. Là, en ce moment, on arrive à faire des ateliers occupationnels, on va dire, avec eux. Alors, ça peut être simplement pour ceux qui sont conviés à la province, on leur donne des précisions sur les départements. Après, on a pas mal d'ateliers occupationnels, plus sur justement la prise en charge, l'accès à la scolarisation, l'accès à la demande d'asile, qu'est-ce que c'est, pour essayer de... Enfin, on axe beaucoup ça sur l'information, essayer de leur donner le plus d'informations possible. Après, ça peut être des ateliers un peu plus, par rapport à l'intégration en France, la laïcité, l'égalité homme-femme. Je veux dire, avec le ramadan, la laïcité, ça a été beaucoup répété. Donc, du coup, on essaye de faire ça. Et après 3 jours par semaine, c'est aussi un point pour eux de nous dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Je me sens pas bien à l'hôtel, il y a eu ceci. Et donc, du coup, ça nous permet aussi, si ce n'est que de le voir, de vérifier qu'il est toujours là. Donc, du coup, c'est lundi, mercredi, vendredi. Et on prend leur numéro de téléphone aussi. Et comme c'est que 2 hôtels, les 2 hôteliers, on les connaît très bien. Et aussi, ça se passe très bien pour passer des messages ou pour que l'hôtelier nous dise « Bon, hier soir, il y a eu un incident dans telle chambre ou il y a eu tel jeune qui a eu ceci. » Là, par exemple, le jeune pour le Pas-de-Calais, j'ai vu, il peut partir demain. On peut appeler l'hôtelier en lui disant « Est-ce que le jeune, vous pouvez lui dire de venir aujourd'hui pour qu'on lui explique ?» Et on sait que dans 3 heures, le jeune, il sera là. Donc là-dessus, ça se passe quand même bien.
Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Je pense que les propos introductifs ont donné une petite idée de ce sur quoi on travaillait, à savoir l'évaluation des mineurs non accompagnés. Alors, la recherche qu'on va vous présenter, c'est une recherche qui est déjà un tout petit peu ancienne, disons, à l'échelle des recherches en sciences sociales, c'est-à-dire qu'elle a quelques années. C'est une recherche qu'on a menée à 3, et je voulais d'abord excuser Julie Mathiussi, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais qui aurait beaucoup aimé discuter de ses travaux avec nous. Donc, moi, je suis Arthur Vuatou, Lisa Carayon. On a donc mené cette enquête, cette recherche, à la fin de nos thèses respectives. On était doctorants, donc en sociologie me concernant, en droit, concernant mes 2 collègues. Et à la fin de ces thèses, on s'est retrouvés autour d'intérêts communs, de questions communes, même si on ne travaillait pas spécifiquement sur les mineurs non accompagnés. Et on s'est dit que finalement, on pouvait, par aussi opportunité, j'en dirai 2 mots après, mener une enquête à partir d'un terrain particulier et essayer de voir un petit peu ce que ça donnait, sans avoir de projet très arrêté au départ. Donc, d'abord, on a eu cette volonté de travailler sur une phase particulière de l'accueil des mineurs non accompagnés, à savoir la phase d'évaluation, à partir donc de ce qu'on peut en voir dans une base de données associative sur laquelle on a travaillé, qui nous donnait accès notamment aux évaluations réalisées par ce qu'on appelait la PAOMI, la permanence d'accueil des mineurs isolés étrangers. On parlait d'ailleurs plus de mineurs isolés étrangers au moment de notre enquête que de MNA, de mineurs non accompagnés. Ça, c'est des catégories de l'action publique qui changent et qui disent aussi un petit peu de la manière dont on traite ces questions. Il y avait assez peu de travaux et il y en a toujours assez peu, même si c'est quand même une question qui intéresse de plus en plus, cette question de l'entrée ou non d'ailleurs dans le dispositif d'aide sociale à l'enfance pour des mineurs isolés étrangers. On a quand même des travaux qui ont été menés depuis, notamment la thèse de Noémie Pathé sur la question de l'accès ou du non-accès à la protection des mineurs isolés étrangers vue de l'intérieur, ou la thèse en droit de Léa Jardin par exemple sur les mineurs non accompagnés. Donc il y a des travaux menés dans nos disciplines. Et donc là, voilà, on vous présente des travaux qu'on a menés en 2016 à partir de dossiers par ailleurs qui dataient un petit peu, qui étaient un peu antérieurs, des années 2013 à 2015, sur donc cette question de l'évaluation se présentant comme à la fois mineur, étranger, isolé sur le territoire.
Alors avant de rentrer dans le détail de cette enquête, donc ce qu'on a travaillé, les résultats qu'on en a tirés, juste un bref rappel. Je pense que toutes et tous ici, vous avez des connaissances en matière de protection de l'enfance, mais malgré tout, il est toujours bon de le rappeler. Pourquoi est-ce que cette question se pose de la protection des mineurs étrangers isolés? Pour en fait une double raison, qui est une raison qui tient d'une part au droit civil et d'autre part au droit des étrangers en droit français. Au droit civil tout d'abord, parce que les personnes mineures, c'est-à-dire en droit français les personnes de moins de 18 ans, sont...
De ces places d'accueil, par exemple, des mineurs, d'hébergement, mais aussi les contrats jeunes majeurs pour ceux qui arrivent à 18 ans, etc. Et en fait, ça, c'est pas dit non plus. C'est très peu dit par les évaluateurs. Ça ne ressort pas non plus, d'ailleurs, vraiment dans le débat public. C'est-à-dire le fait que ces évaluateurs, ils ont aussi derrière eux une contrainte, qui est la contrainte de la pression budgétaire que les départements font peser sur leur travail, sans le dire directement, puisque théoriquement, ils n'ont pas à s'intéresser au nombre de places disponibles. Ils sont là pour juger de l'âge de mineurs, mais en réalité, cette question des impératifs budgétaires, de la pression que mettent les départements sur l'évaluation, elle est bien présente. Et ça, les évaluateurs ne le diront pas forcément en entretien, ils peuvent le dire parfois en off, ils peuvent le sous-entendre, mais évidemment, cette question, elle est centrale. Et là encore, elle varie fortement d'un département à l'autre, comme on le voit aujourd'hui dans notre nouvelle recherche. Voilà. Merci.
Merci beaucoup pour cette intervention. Moi, j'aurais deux questions. D'abord, une question qui renvoie peut-être à la méthode. Donc, il y a eu un échantillonnage sur une série de dossiers, ça j'ai bien compris. Ensuite, vous avez dit que vous aviez croisé en fait la parole des évaluateurs avec celle notamment des associations. Quid des mineurs, enfin, voilà, ça c'est évidemment, vous attendiez la question. Et j'en ai une autre alors qui renvoie et peut-être qui est moins une question qu'une demande peut-être de précision ou de complément concernant justement le référent culturaliste où l'imputation renvoie à une culture. Si vous pouviez illustrer peut-être par des exemples pour mieux comprendre en fait comment ça se déroule dans ces entretiens qui sont en fait des entretiens sélectifs, quoi, hein, si je comprends bien.
Du coup, sur les mineurs, alors la question déjà de la conception même de l'enquête, le fait qu'aussi on ait accès à des dossiers de mineurs qui étaient dans une base, et par ailleurs, voilà, on a fait le choix de travailler sur des dossiers clos, anciens, en tout cas qui n'étaient pas en cours d'examen, notamment pour ne pas perturber le travail de l'association qui était en train de travailler sur ces dossiers. Donc on ne pouvait pas aller rechercher les mineurs en question. Après, on aurait pu très bien travailler sur l'évaluation elle-même, aller voir comment se passent ces évaluations. Mais pour le coup, on n'avait pas le temps de le faire à ce moment-là, et c'est pour ça qu'on a décidé de travailler auprès des mineurs aujourd'hui, puisque là, dans le travail qu'on fait sur les conditions de vie des mineurs, on est allé voir du coup. Alors après, il s'agit de mineurs qui ont été pris en charge, donc ça ne nous donne pas accès à ceux qui ne sont pas pris en charge et qui sont les plus nombreux, quelque part. Évidemment, il y a un biais, mais...
Oui. Par ailleurs, il y avait un problème de calendrier, parce qu'en fait, cet examen des entretiens eux-mêmes et de faire parler les mineurs eux-mêmes aurait nécessairement été fait après l'examen des dossiers. Or, en fait, il se trouve qu'entre les deux, le marché a changé. Et donc, en fait, le cadre n'était plus le même et on avait examiné l'activité d'une association. Et si on retournait sur le terrain pour parler avec les mineurs, en fait, on aurait parlé avec les mineurs qui n'auraient pas été soumis au même cadre. Donc, en fait, ça n'aurait pas vraiment eu un intérêt comparatif.
Et sur le référent culturaliste, pour donner des exemples un peu précis, mais ça va être par exemple une chose qu'on voit assez souvent apparaître, récit d'un jeune qui raconte du coup sa vie au pays avant de partir, et qui raconte par exemple que sa sœur a été scolarisée, que lui a été scolarisé jusqu'à tel âge, sa sœur aussi, etc. Puis après, il y a eu un décès familial, etc. Et puis un évaluateur qui va du coup juger que dans ce pays-là, il semblerait que la scolarisation des filles, par exemple, ne soit pas assurée, en tout cas pas jusqu'à l'âge qui est dit par le mineur. Et donc, on va aller chercher comme ça, de scruter. Et quand on en parle avec les évaluateurs, on leur dit, mais du coup, est-ce que vous, vraiment, vous maîtrisez l'ensemble des situations, l'ensemble des... Parce que quand même, on a une diversité de nationalités des jeunes, etc. Et puis là, ils disent, on connaît certaines situations, évidemment pas toutes. Alors, parfois, c'est un peu de... Voilà, des hypothèses, etc. Mais donc ça va finalement servir à charge contre des mineurs, alors même que la certitude du côté des évaluateurs est faible. Et c'est là qu'on voit toute cette part d'arbitraire, de dire, bon, il semblerait, ça ne correspond pas trop à ce qu'on a l'habitude de voir, le schéma familial décrit par ce mineur ne correspond pas trop à ce qu'on a l'habitude de voir chez tel mineur de telle nationalité, musulman ou chrétien, etc. Et donc on va immédiatement mettre en doute le récit. C'est vraiment... là que se nichent des formes de culturalisme qui sont finalement sous le registre de l'évidence, mais qui passent très fortement comme ça dans les évaluations.
Ils se traduisent parfois dans la question de savoir comment se comporte un adolescent. un adolescent ne se comporte pas de telle façon, il ne parle pas avec autant d'émotions de sa grand-mère morte, ou à l'inverse, il doit faire preuve de beaucoup d'émotions quand il parle de son petit frère mort sur la route. Comment se comporte véritablement un enfant? Et on voit bien qu'en fait, dans certaines évaluations, certaines, hein, c'est des tendances qu'on peut voir parfois, mais évidemment, tous les évaluateurs n'ont pas la même position, et ben, en réalité, on projette sur le jeune ce qu'est un adolescent, mais un adolescent qui est le public traditionnel de l'ASE, donc un adolescent occidental ou élevé dans un contexte occidental avec une structure familiale qui est connue, parents, père, mère, frères et sœurs, etc. Et on voit parfois que dans certaines évaluations, on disqualifie totalement le fait qu'on peut être adolescent différemment suivant le contexte, et que quand on s'adresse à des adolescents qui ont parfois pris la route 3 ans plus tôt, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils aient la même attitude dans le discours et dans le rapport à la vie que nos adolescents qui sont en crise au collège, quoi.
Merci, on va peut-être laisser la parole à la salle pour 2-3 questions et des réponses un peu concises, parce que malheureusement on a pris un peu de retard. Est-ce qu'il y a des questions?
Merci beaucoup, je trouve ça passionnant. J'aurais en réalité 100 questions à vous poser, mais je vais revenir sur une seule qui me tracasse, qui est celle que j'appelle celle des quotas. Vous dites que ces agents-là sont sûrement soumis à des contraintes budgétaires, en tout cas on l'espère, parce que sinon on se serait dit qu'on aurait aimé qu'ils accueillent tout le monde. Mais alors là, est-ce que ailleurs que chez ces agents, a-t-on une idée de ces contraintes budgétaires? Parce que qu'est-ce qui fait en sorte que ces agents-là n'accueillent pas tout le monde? Je comprends qu'il y a une pression, qu'elle est non dite, mais concrètement, comment est-ce que, par exemple, si moi je suis agente et que j'accepte tous ces gens qui passent devant moi, même si je doute de leur minorité, c'est quelqu'un qui va venir me taper sur les doigts, ça se matérialise comment? Est-ce que vous savez ou pas, peut-être?
Alors, je pense que je peux vous parler de certaines contraintes, et aussi, et peut-être que c'est plus visible, les contraintes qui peuvent peser sur les juges des enfants. C'est parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais on a aussi observé un peu les décisions des juges des enfants. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'on observe que progressivement, le nombre de personnes accueillies, enfin le pourcentage de personnes accueillies, en fait, se stabilise dans les différents territoires. Ce qui montre bien qu'il y a une forme d'uniformisation. En réalité, par exemple, un des moyens de pression, c'est le fait que lorsque un enfant est placé auprès de l'aide sociale à l'enfance, alors déjà là il y a eu des évolutions parce que c'est pas vraiment la décision des agents qui placent les enfants, les agents donnent des avis qui sont ensuite transmis désormais au département qui ensuite fait son propre tri, donc déjà ça a évolué juridiquement, mais l'aide sociale à l'enfance a la possibilité de faire des recours contre les décisions. Et donc en fait, si vous êtes un agent contre lequel un recours est systématiquement fait contre votre décision, en fait vous n'avez même pas besoin qu'on vous dise d'arrêter de prendre en charge aussi largement, puisqu'en réalité, vous-même, vous allez progressivement prendre en charge moins de personnes. Par ailleurs, clairement, il y a un discours qui intègre le fait que pour accueillir bien, il faut accueillir les vrais mineurs. En fait, c'est intégré dans le discours des évaluateurs. Et pour parler des juges des enfants, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des recours faits par l'aide sociale à l'enfance ou par le ministère public contre les décisions. Et si vous êtes un juge dont les décisions sont systématiquement remises en cause par la cour d'appel, par exemple, en fait, vous n'êtes pas forcément dans la bonne situation. Et surtout, ça, c'est un discours qui a été tenu parmi pas mal de juges. En réalité, il y a toujours des négociations avec les partenaires avec lesquels vous travaillez. C'est-à-dire que quand vous êtes juge des enfants, vous travaillez au quotidien avec l'aide sociale à l'enfance, qui elle-même est dans une situation contrainte. Si vous prenez des décisions de protection à l'appel, mais qui ne sont pas exécutées parce que derrière, il n'y a pas de place et que l'ASE dit qu'elle arrête d'exécuter, en réalité, vous êtes dans une situation socialement contrainte. Et quand derrière, vous avez une fratrie de 5 enfants qui arrivent d'une famille française où ils sont soumis à des violences sexuelles, est-ce qu'on vous les prend, vos 5, ensemble, au même endroit? Est-ce que vous avez la relation de confiance nécessaire avec l'aide sociale à l'enfance pour que ce soit fait? Ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, en fait, il n'y a pas besoin d'une autorité qui vienne vous dire d'arrêter. Hein. C'est un système social qui le permet.
On va prendre une question, puis malheureusement, après, on va devoir arrêter le débat.
Je ne faisais que semblant de lever la main, mais puis j'ai le micro, je vais poser une question. Est-ce que sur les 3 000 ou 300 dossiers que vous avez examinés, combien ont été dans les mineurs, dans les 300 ou les 3000, hein, je ne sais plus lesquels dire, combien les conseils généraux ou les conseils départementaux ou les préfectures ont contesté, ou le parquet?
En fait, le problème, c'est que notre base, elle n'est pas représentative de l'ensemble des mineurs qui sont évalués, parce que par définition, comme on examine la base d'une association qui aide les mineurs à faire des recours contre les décisions qui ont pu être prises par l'aide sociale à l'enfance, nous, on n'examine pas la base de l'aide sociale à l'enfance. Ben, en fait, notre base est légèrement biaisée, dans la mesure où on a plus de rejets, par définition, que la statistique générale de la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Si je me souviens bien, on a vraiment un chiffre extrêmement bas, on est à 10%, je crois, quelque chose comme ça, de personnes dans notre base qui ont été finalement pris en charge. Mais en réalité, ce n'est pas représentatif. On est plutôt à un tiers dans les chiffres nationaux. Mais c'est dur de parler de ce sujet après ce qui s'est passé la semaine dernière.
Alors, peut-être une dernière question, mais il faudra répondre très vite. Parce que...
Ça va être rapide, c'était juste pour savoir, vous êtes intéressé juste à Paris ou à d'autres départements dans votre étude ?
Le département, c'était Paris pour cette recherche-là. Et après, maintenant, du coup, on fait une comparaison entre différents départements en France, avec notamment l'idée de travailler à la fois sur des départements de premier accueil, c'est-à-dire avec des mineurs qui arrivent en nombre dans le département, et des mineurs vers lesquels, des départements dans lesquels les mineurs sont réorientés par l'aide sociale à l'enfance. Donc, vous voyez qu'on essaye d'avoir cette dimension comparative que là, du coup, on n'avait pas dans cette enquête.
Merci beaucoup.